Le festival Les Inouïs, organisé par l'association Musique en Roue Libre, propose chaque année de découvrir ou de redécouvrir les grands compositeurs de musique classique, contemporaine ou encore un métissage de musique du monde avec des artistes virtuoses venus de la région Hauts-de-France, mais aussi d'ailleurs. C'est l'occasion également de mettre à l'honneur les hommes de l'ombre, ceux qu'on ne voit pas sur le devant de la scène, mais qui font un travail de fourmi derrière les rideaux pour gérer le son, la lumière et les contraintes techniques et logistiques pour que tous les concerts se passent sans problème. Lors de cette 17e édition, j'ai reçu au cœur de notre studio mobile, installé pour l'occasion dans l'ancienne écurie de l'hôtel de Guine d'Arras, ces hommes de l'ombre, les techniciens Xavier, Brice et Julien, pour faire un bilan de cette nouvelle édition. On évoquera également avec eux leur parcours sur ce festival, ce qu'ils y font, avec quelques anecdotes, et on reviendra aussi ensemble sur leur coup de cœur de cette nouvelle édition. Cette 17e édition pour l'interview finale. Vous avez la primeur de pouvoir faire l'interview finale. Les techniciens et tous ceux qui sont dans l'ombre et qui font plein de choses pour que ce festival justement y vive. Xavier, Julien et Brice présents. Alors, qui veut prendre la parole en premier pour raconter cette expérience sur cette 17e édition?
Alors, ils m'ont tous désigné, ils m'ont montré du doigt déjà pour commencer. Donc, je peux raconter une anecdote. En 1985, j'avais une émission sur Radio PFM, ça s'appelait Rock US. Il faut que tu cherches les archives, Boris. C'est quelque part, on avait des cassettes, je me souviens. Bernard, il nous appelait pour nous dire que la cassette vrillait dans le magnéto.
T'as un souvenir, toi, de ça?
Ah bah déjà, j'ai souvenir du studio Placard, place de la Vacquerie.
On a regardé même la première émission de Radio Provisoire.
Ah bah ça, c'est, ça doit être terrible.
Ouais, ouais, c'est terrible, surtout Bernard.
Il est pas là, on peut se garder mal des...
Alors, du coup...
Bon, non, mais alors après... Bon,
ouais, voilà, vas-y, alors.
Bah voilà, écoute, en fait, pour la petite histoire, on m'a appelé un jour... Enfin, c'est Bruno Dupont qui est donc directeur technique du Festival de la Côte d'Opale qui m'appelle un jour et me dit... Xavier, il faut que je te demande, je te fais une demande personnelle, très personnelle. Il dit voilà, je suis ami avec Julien Lahaye, il vient de reprendre le festival Les Inouïs. Bah, je dis je connais très bien, puisque j'ai participé quasiment à la première édition. Je me souviens très bien de la première édition. Et il me dit bah voilà, on m'a proposé de faire la régie technique de ce festival, mais moi je peux pas le faire, c'est loin, c'est compliqué. Il dit je pense qu'il y a, enfin sur Arras, il y a qu'une seule personne qui est en mesure de pouvoir le faire très vite, puisqu'on était déjà en avril, donc il fallait agir vite maintenant. Et donc voilà, et c'est vrai que Yves Paris, qui était le dernier directeur technique de ce festival, a pris sa retraite, entre guillemets, parce que c'est une retraite forcée, parce qu'il a des petits problèmes de santé, donc voilà, il n'a pas voulu continuer. Et c'était un repos bien mérité, hein, et voilà, il avait déjà bien donné. Mais il m'en a pas parlé directement, donc finalement, bah, la boucle s'est faite par ailleurs. Et d'abord, j'ai dit à Julien, envoie-moi le programme pour que je regarde si ça va pouvoir matcher avec mes contraintes personnelles. Et puis finalement, bah, j'ai vu que c'était largement faisable, donc j'ai accepté le deal. Voilà. Donc et on s'est mis au travail tout de suite. Et là, il y a plein d'anecdotes hein, là, sur cette émission.
Ouais, bah... Bah et toi, Brice, alors comment t'es arrivé
Eh ben, moi, je connaissais Fabrice déjà avant. Et en fait, en 2007, je me suis retrouvé à filer un petit coup de main. Et après, c'était un peu désorganisé. Et il avait besoin, à un moment donné, pour faire une journée à Cité Nature un peu compliquée, de quelqu'un pour chapeauter. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à finalement devenir, je ne sais pas si le terme est bon, mais régisseur général. C'est-à-dire à connaître tout, puis dire ce qu'il fallait faire, où placer les choses, etc. Et puis j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis après, en 2012, j'ai pris un peu de distance pour le boulot, la famille, tout ça. Et puis bah voilà, maintenant, du gars qui savait tout, maintenant je ne sais plus rien. Et puis j'écoute Xavier qui me dit ce que je dois faire, tout simplement. Voilà.
Julien ?
Alors, bah, moi, je suis arrivé vraiment au dernier moment dans le festival. En fait, Julien m'a appelé fin juin en me disant « Oh là là, j'ai un peu une galère qui vient de me tomber dessus. Est-ce que tu es dispo pour venir donner un coup de main sur le festival ?» Donc j'ai accepté et puis me voilà dans l'équipe, hein, tout simplement.
Et puis on n'oublie pas aussi évidemment François, hein, qui est le régisseur François. Lumière.
Alors ça c'est nouveau, ça a été un apport. Moi j'avais dit à Julien, je viens mais à condition que je puisse aussi faire des délégations sur des postes importants. Moi ça me paraît, je gère un autre festival bien connu sur Arras qui est le Didouda Arras Festival depuis 2005. Donc je sais par expérience qu'il y a des postes qui sont incontournables en tant que professionnel et il faut absolument que ces postes-là soient efficaces. Et j'ai dit à Julien, moi je veux avoir la certitude que on puisse travailler comme ça et qu'on puisse déléguer ces parties-là parce que, je veux dire, ça s'improvise pas. Mmh. Les résultats paraissent évidents, mais en réalité, ils sont pensés avant. Et évidemment, ça nécessite un peu de budget pour pouvoir le faire. Et je trouve ça formidable que Julien accepte l'idée que un événement, c'est aussi dans la forme qu'il existe, pas seulement que sur la partie artistique. Et ça, c'est déjà, pour moi, la preuve que c'est quelqu'un qui est très réaliste sur les événements, qui a beaucoup de maturité, et du coup, ça permet de vraiment d'envisager les choses sous le meilleur angle, en fait.
Et puis François, il a fait un boulot de malade, ouais, sur l'éclairage, sur les concerts, mais aussi sur la mise en lumière de l'hôtel de Guine hier, notamment. C'était complètement fabuleux. On a rarement vu l'hôtel de Guine depuis éclairé comme ça. C'était une grande qualité.
Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi François. Je savais que pour ce qu'il y avait à faire, surtout qu'il y avait aussi des contraintes. Julien nous a demandé de placer le festival sous le régime de l'économie de moyens. Alors l'économie de moyens, c'est pas seulement que l'argent, c'est aussi l'économie d'énergie. Aujourd'hui, on est très sensible aux problèmes justement de la consommation électrique, de la portabilité, des choses simples à mettre en œuvre, parce qu'il ne faut pas non plus être une équipe de 25 pour avoir du résultat. Donc du coup, c'était un objectif supplémentaire et moi je me suis assigné le fait, et c'était une contrainte que j'ai imposée directement à François. C'était pas une contrainte, mais je lui ai mis le deal entre les mains et je lui ai dit, François, il faut faire simple, efficace, économe en énergie, avec tout l'ensemble, et il a relevé le défi vraiment à tous les niveaux, sur tous les spectacles, et c'était franchement formidable. Je pense qu'on avait une plus-value vraiment très très importante cette année. Et puis il y a eu aussi forcément pendant la tournée à vélo le défi d'utiliser des boîtes à lumière avec les bougies
c'était
grand à l'ancienne, c'est-à-dire les boîtes baroques. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait une boîte en bois avec des miroirs dans lesquels on dispose des bougies. Et en fait, la réflexion naturelle des sources crée la lumière. Et donc on a tourné avec ça sur la première partie du festival. C'était formidable. C'est un peu ce qu'on appelle les candlelight, mais avec des vraies bougies, pas des bougies en plastique qui font un pseudo-effet à pile. Il faut changer les piles tous les 3 jours. Nous, on a fait des vrais candlelight et ça a fonctionné terriblement. Voilà, et donc il y avait évidemment quelques contraintes de sécurité à gérer, mais en même temps, le résultat, il était vraiment à la hauteur, quoi. Donc très original dans la démarche aussi. Et pour rebondir sur l'aspect de la préoccupation sur l'énergie, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener dans le domaine du spectacle, parce que je trouve que les efforts sont pas encore assez notables. Ouais. Et je pense qu'il faut aller plus de l'avant, parce que c'est de l'avenir de notre planète qu'il s'agit, et il faudrait qu'on s'y préoccupe aussi.
Exactement.
Voilà, et je pense que le fait de labelliser certains événements permet d'avancer dans le sujet. Voilà.
Et alors, j'ai encore trois petites questions avant de vous laisser aller boire votre petite bière hein, quand même, hein, parce que c'est la fin. La première, il y a aussi, j'imagine que cette année a été un peu compliquée aussi pour les contraintes de température, parce qu'il a fait très 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 chaud. Alors les machines, évidemment, elles chauffent. Comment ça se gère ça? Est-ce qu'il y a vraiment des difficultés ou ça roule tout seul quand même?
Alors, on va dire qu'on a été assez préservé parce qu'il y a, notamment sur la deuxième partie du festival, on était accueillis dans des salles. Donc, coup, même si pour certaines, justement, elles n'ont pas les systèmes de climatisation ou par choix, ils ne les mettent pas en route. Donc, du coup, on avait des endroits où c'était un peu compliqué. Mais en soi, on était relativement préservé sur ces questions-là. Sur la première partie, même si la température a été modérée, on était dans des églises où naturellement on était préservé par la fraîcheur du bâtiment. Donc on a vraiment pas souffert quoi sur ces questions-là. On était voilà.
Une fois que l'installation était faite, parce que
la
souffrance était dans le transport du matériel.
Évidemment.
C'était pendant les concerts, le matériel souffrait pas, c'était plutôt le public qui était, voilà, il fallait qu'on sorte les éventails. Mais sinon, effectivement, c'est plutôt la manutention du matériel, la décharge du camion, emmener dans le camion, bouger le matériel. Là, c'est vrai que ça a transpiré un petit peu cette année.
Et toi, alors, Julien, comment tu l'as vécu, toi, ce festival? C'est ta première aventure, hein, on le rappelle. Hein.
Oui, c'est la première. Alors, très heureux, en fait. Je m'attendais pas à ça, en fait, personnellement. On m'a présenté le festival en disant bon, c'est un petit festival, ça va aller, il n'y a pas grand chose, etc., ça va rouler. Non, en fait, ça n'a rien, ce n'est pas les Inouïs, ce n'est pas un petit festival, désolé. C'est un vrai festival en fait, avec quand même des moyens conséquents, des artistes qui sont venus, qui sont quand même d'une certaine renommée. Donc c'était vraiment enfin, une super expérience, très formateur.
Je me permets juste, en fait, ce truc de petit festival avec pas grand-chose à faire, c'est un truc que Fabrice nous a fait croire dès 2007, quand tu es arrivé, il m'a dit, tu verras, on va faire une forme simple, etc. Et en fait, c'était monumental, il fallait retourner des églises, il fallait trouver
des moyens,
il fallait vider des granges, les nettoyer, il fallait... Enfin, c'était une mise en place complètement folle. Alors, à chaque fois, moi, je lui disais, non, mais ça va aller, mais... Enfin, il a toujours vendu le truc en disant « Ouais, forme simple, ça ira. » Sauf que oui, Julien a raison. En fait, c'est pas parce que ça paraît simple sur le papier. Non, non, ça demande énormément de travail et de préparation. Et puis, voilà.
C'est ça. Et puis, allez, chacun une anecdote quand même. Hein, un peu croustillante.
Bon, moi, l'anecdote, la première, c'est évidemment sur le concert de Viva à Bapaume, puisque en fait, c'était un spectacle qui mélangeait cirque et musique. Et du coup, on avait l'idée, c'est évidemment de faire... Dans ce spectacle, il y a un circassien qui fait du tissu tendu, donc avec un point d'accroche sur le haut, à 7 mètres, et des acrobaties. Et en fait... on avait programmé ce spectacle à Isabelle de Hainaut à Bapaume. Et en fait, à la réunion de préparation, on a appris que en fait, on ne pouvait pas accrocher sur la structure ni sur la charpente parce qu'elle était inaccessible. Et donc, en sortant de là, on s'est regardé avec Julien, on s'est dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que là, si on n'a pas de moyen d'accroche, en fait, le spectacle ne peut pas se jouer. Donc, ça a été un moment intense. On a tout de suite compris qu'il fallait réagir immédiatement. Mon idée, ça a été de dire que, en fait, on utilise des portiques de voltige dans les spectacles de cirque. Et ma première idée, ça a été évidemment d'appeler les copains qui bossaient avec les compagnies de cirque. On a eu quelques touches locales sur des agrès qui existaient. Malheureusement, pas tous étaient transportables parce qu'ils n'étaient pas forcément démontables, etc. C'était un peu compliqué et ça demandait de la logistique et des frais énormes. Et finalement, c'est une petite compagnie de la région parisienne qui est venue, qui s'appelle Les Arts du Cirque, avec Vanessa à sa tête et qui a répondu tout de suite « Ok, en nous proposant de venir monter son agrès de cirque dans la salle. Et donc, quand j'ai dit ça à Julien, j'ai vraiment compris que c'était important et qu'on avait un peu sauvé ce spectacle et qui a eu lieu. Et vraiment, ça a été une belle réussite, une très très belle programmation. C'était une première, c'était une création. Mmh. On l'a faite en une journée. Et donc, franchement, ce spectacle est parti là, maintenant, sur la base de ce qu'on a créé. Et donc, je pense qu'il va vraiment tourner parce que c'est vraiment exceptionnel. Donc, moi, c'est vraiment l'anecdote que je retiens de ce festival parce que ça a été quelque chose de très, très important. Qui s'est passé.
Puis je crois savoir aussi que le plafond était plus bas et qu'il a dû réduire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, avec le montage de la grée, on n'a pas pu monter à la hauteur souhaitée au départ. Il a dû réadapter son jeu. Ouais. Mais sincèrement, sur le rendu, on voit pas la différence.
Ah non, ça s'est pas vu. Non.
Et franchement, c'était incroyable.
Brice ?
Eh ben en fait, moi, j'ai pas d'anecdote cette année, parce que moi, vu que je suis aux ordres de Xavier, c'est lui qui voit passer les difficultés, etc. Donc moi, après, on pourra faire une émission avec toutes les anecdotes des éditions d'avant, j'en ai plein.
Alors qui t'a marqué.
Non, mais enfin, voilà, juste pour un exemple, pour expliquer un peu les difficultés techniques dans lesquelles on était avant et qu'on ne rencontre plus maintenant, parce que je tiens quand même à dire que, je ne veux pas minimiser, hein, mais on est un peu plus dans l'aisance technique ces dernières années, puisqu'on est beaucoup quand même dans les théâtres et choses comme ça, alors qu'avant c'était que dans les églises, enfin des lieux vraiment et qu'il fallait investir et qui n'étaient pas faits pour ça. Et donc par exemple, il y a une fois où on a fait une journée très simple avec Fabrice, où il y a un enchaînement de concerts toute la journée, et en fait il y avait un concert à 18h, un autre à 20h dans deux villages voisins. Et en fait, il fallait amener de l'électricité. Donc, il fallait un compteur, ce qu'on appelle un compteur forain, voilà, qui a un niveau de puissance suffisant. Et donc, j'arrive dans une église, et puis, il y a un compteur. Magnifique. Et puis, donc, on fait l'installation, puis on arrive dans la deuxième église, et là, pas de compteur. Donc, pas d'électricité, donc pas de spectacle. Et là, le mec me dit, non, mais il n'y a pas de souci, le village d'à côté, ils en ont un, ils vont nous le prêter. Et en fait, les gars, dans leur tête, ils avaient un compteur pour deux, qui comptait prêté comme ça à deux heures d'intervalle. Voilà, et c'est exactement le genre de choses que moi j'ai la joie de gérer pendant quelques années, d'où mon abandon des Inouïs, parce qu'à un moment donné, stop.
Bon alors Julien,
j'ai pas vraiment d'anecdotes particulières.
Okay.
Après, des super moments avec tout le monde, des franchement moments de rigolade, la découverte de la campagne artoise.
du coup, on va terminer avec la question bonus, parce que vous êtes évidemment technicien, vous montez, mais vous assistez aussi au spectacle. Alors Julien, quelle claque cette année tu as pris ? Quel est ton meilleur souvenir, on va dire, de spectacle ? Même si il y en a beaucoup, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont marqué les esprits.
Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a deux quand même qui m'ont fort marqué. C'est Hélène Collerette, samedi matin à la chapelle.
À la chapelle, c'était incroyable.
Ouais.
Enfin, l'acoustique est géniale, hein, de toute façon, cette chapelle.
Ouais, tout était parfait. En fait, il n'y avait vraiment rien à dire. C'était un moment vraiment magnifique. Et le deuxième, c'est un peu bateau, hein. C'est vraiment le dernier, le concert qu'a donné Fabrice et son équipe, c'était juste...
Ah ouais, Dana est juste derrière toi, justement, donc tu peux la remercier. Tu peux la remercier directement.
Merci beaucoup Dana pour ce beau moment.
Xavier ?
Alors moi j'ai... on a fait une très belle rencontre avec une artiste incroyable... qui s'appelle Eleonore Billy, qui a été le fil rouge du festival.
Ouais. Joueuse de Nickel Harpa, l'instrument suédois, que je
et,
ne connaissais pas.
Et en fait, elle, bien sûr, elle a joué avec de multiples formations. Moi, j'ai beaucoup aimé la prestation de son groupe Quarlet, qui est vraiment, je pense, la quintessence de l'exploitation de cet instrument, le Nickel Harpa. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment très cinématographique ce qu'elle propose. C'est vraiment presque de la musique de film. C'est qui propose des grands espaces, de la profondeur. Vraiment une écriture très particulière. Et j'ai adoré ce moment. C'était vraiment très très particulier. Il y avait peu de monde, mais c'était vraiment très intense sur cette période. Et puis aussi. Le moment qu'on vient de vivre aujourd'hui, pareil avec...
avec l'homme violon.
Avec un formidable violoniste, violoncelliste et la pianiste incroyable
qui est juste derrière nous. Voilà,
et qui nous surveille. Elle a le pistolet sur la tempe. Voilà, tout est sous la menace.
Brice ?
Eh ben, oui, mais je ne vais pas faire très original. Alors si, justement. La claque monumentale vient du concert qu'on vient d'écouter, Dumka, qui était complètement incroyable. Et pourtant, je vais parler de Radio Loukoum. Parce que, non pas que c'était le truc le plus incroyable musicalement, etc., mais juste parce que ça sortait complètement. Moi, ça fait maintenant, voilà, depuis 2007 que je vois passer les concerts. Et en fait, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mettre de la musique électro, enfin jamais, j'exagère un peu, mais voilà, faire danser les gens sur le dance floor, etc., avec ce type de musique. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, je trouve encore comment dirais-je, dans la programmation, cette idée d'ouverture, d'aller chercher ailleurs, autrement, et voilà, donc pour d'autres raisons, on va mettre cet événement en avant.
Ah ben, merci beaucoup à tous les trois d'être passés dans les studios pour parler de cette expérience. On se dit à l'année prochaine, j'imagine.
À l'année prochaine.
Évidemment, et merci à toi de suivre cet événement, parce que le fait de t'avoir tout le temps et que tu passes des enregistrements de concerts et que tu gardes des traces de tout ça, c'est...
Et des fois, elles sont collector. Hein.
C'est tout simplement incroyable. Donc, bravo PFM et bravo Boris.
Bah, moi, de toute façon, comme je le disais à Fabrice tout à l'heure, c'est toujours un réel plaisir de venir sur une édition des Inouïs qui, porte bien son nom, hein, Inouïs, parce que j'apprends plein de choses, je découvre, je voyage, je découvre des instruments que je ne connais pas, des artistes virtuoses et hors pair comme tous ces... Alors moi, pour le coup, je vais dire ma grosse claque, même si j'ai adoré tout, évidemment. Je n'avais aucun doute sur le Dumka, puisque je connais bien Dana maintenant, Fabrice, je le connais bien aussi, et j'ai découvert Pierre, ce frénétique homme violon, et je savais très bien que ça allait être parfait. Mais moi, j'ai un petit coup de cœur quand même, c'est pour ces jeunes archers, qui sont vraiment les gamins, c'est presque leur premier concert, c'était la première fois qu'ils se revoyaient, ils n'avaient pas repris les cours, ils étaient en vacances encore et ils venaient de reprendre leur instrument pour répéter et jouer quand même sous le cagnard. C'était pas simple. Et puis mon deuxième gros coup de cœur également, c'est l'ensemble Edonné. J'ai découvert une violoniste je crois que c'est Alice, qui est absolument géniale. En plus, comme moi, j'enregistre les concerts, j'ai le casque, donc j'ai vraiment le son qui... Et là, j'ai dit, waouh, ça, c'est de la virtuosité. Ils étaient tous bons, mais j'ai trouvé ces petits jeunes-là qui sont devenir des futurs grands. Eh ben voilà, moi, c'est un gros coup de cœur. Et c'était pas simple de jouer dans l'acoustique de cette salle jaune, la salle des mets du musée, parce que moi, je trouve que l'acoustique n'est pas toujours terrible.
Non, non mais alors, voilà. Tu vois, pour en venir à ta question, en fait, c'est une fausse question. Parce que en fait, il n'y a pas un concert qui est mieux que les autres. On peut aimer, on peut être sensible, mais en fait, chaque proposition est quelque chose. Enfin, c'est à chaque fois une aventure. Et même, tu parlais des enfants qui jouent. Alors, c'est vrai que sur le papier, tu dis, c'est des enfants. Au niveau musical, il est pas fou par rapport à Dana, par rapport à Fabrice, tout ça. Mais en fait, c'est juste des moments incroyables à chaque fois. C'est-à-dire que c'est ça, les Inouïs. En fait, la force de Fabrice et de Julien, c'est qui continue à perpétuer ça. C'est de proposer des formes différentes, des univers différents. Et à chaque fois, en fait, c'est une réussite. Et moi. Honnêtement, depuis 2007, il y a très peu de concerts où c'est passé à travers. Quoi. Vraiment, quelles que soient les formes, le niveau des musiciens, l'âge des musiciens, à chaque fois, c'est un régal. Quoi.
Ouais.
Un régal.
Et puis ces jeunes archers, justement, en plus, aucun stress. Hein. Moi, je les ai trouvés. ils sont dans leur bain, quoi, pratiquement. Et ils ont découvert aussi les contraintes, justement, de la chaleur. On en reparlait tout à l'heure, puisque je les ai interviewés, quelques-uns. Ils m'ont dit, oui, mais super. Avec la sueur, ça glisse. Et on avait peur de... Je dis, ça ne s'est pas entendu. Donc, du coup, voilà.
Et puis Sophie, pour le coup, la chef d'orchestre, elle était plus tendue que les jeunes.
Bon, merci à vous trois. Et puis, bon retour à la réalité de vos occupations habituelles.
Dès demain matin. Et bien.
Voilà. Et puis, je vous souhaite bon vent et puis à l'année prochaine.
Et merci à toi.
Merci Boris.
C'était un entretien en compagnie des techniciens Xavier, Brice et Julien, réalisé lors de la 17e édition du festival Les Inouïs, organisé par l'association Musique en Roue Libre et qui s'est déroulée un peu partout dans le sud artois, l'Artois ternois et à Arras. Tous les souvenirs évoqués par eux lors de cet événement seront à retrouver en live et avec des interviews de spectateurs et d'artistes sur le www.radiopfm.com.